Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Après avoir quitté la Judée pour se rendre en Galilée, en passant nécessairement par la Samarie, Jésus arriva dans la ville de Sichem. Fatigué du voyage, il s'assit au bord du puits que Jacob avait donné à Joseph son fils. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Que se passa-t-il? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le Christ fait allusion ici au Saint-Esprit, à ces fleuves d'eau vive qui couleront du sein de ceux qui croient. Il se réfère à cette puissance qui rendra la vie au corps mortel de chaque chrétien. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Cette femme avait déjà eu cinq maris dont elle s'était probablement séparée et elle vivait avec un sixième sans qu'il soit son époux. Passons maintenant à la partie la plus importante de ce récit. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Les paroles du Christ nous pousse à croire que le culte de cette femme n'était pas convenable, puisqu'il dut lui expliquer comment adorer. Et vous, savez-vous comment adorer Dieu? Êtes-vous certain d'adorer Dieu comme il le souhaite? Vous prosternez-vous devant une image, une statue, parce que c'est ainsi que l'on vous a appris à faire depuis votre plus tendre enfance? Savez-vous qui est Dieu? Vous vous êtes peut-être conformé aux idées et aux traditions du paganisme sans le savoir. J'ai souvent eu l'occasion d'entendre ou de lire des gens expliquer l'une ou l'autre doctrine biblique en affirmant « Voilà comment je vois la chose » et elles poursuivent en donnant leur avis personnel sur la question, un avis bien souvent en contradiction avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes honnêtes et sincères sont persuadées que la Bible est un livre qui peut être librement interprété. Elles appliquent également ce principe à la manière dont elles adorent Dieu, et bien souvent, elles ne savent pas vraiment qui est Dieu. Si vous pensez que j'exagère, demandez-vous pourquoi il y a tant de croyances différentes sur l'identité de Dieu. À peu près chaque dénomination religieuse a ses doctrines sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur le Christ. Chaque nation, chaque famille même, a des idées particulières sur Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette confusion était possible, si chacun adorait le vrai Dieu? Cette confusion pourrait être évitée si le monde chrétien cherchait à connaître cet être spirituel réel qui gouverne l'univers entier depuis son trône qui se situe dans les cieux. Si l'on prenait la peine de rechercher Dieu dans la Bible, en oubliant ce que l'on a appris, on découvrirait que ce Dieu vivant nous parle par sa parole. Il nous révèle sa nature, son but, ses lois, sa volonté, toutes choses que l'homme ne peut découvrir par lui-même. Nous devrions prendre à cœur ce que le Christ a déclaré. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien de chrétiens vivent de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? En fait, il y en a très peu. La plupart d'entre eux ont des idées personnelles auxquelles ils sont attachés et ils ne souhaitent pas s'en débarrasser. On veut bien plaire à Dieu, faire sa volonté, mais sans trop d'efforts, sans sacrifice. La plupart des hommes agissent selon leur conscience, selon leur pensée, mais la conscience de l'un n'est pas la conscience de l'autre, et de toute façon Dieu a déclaré « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies, votre façon de vivre, ne sont pas mes voies ». La révélation la plus précise relative à la nature de Dieu nous est donnée par le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus a ajouté « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Mais direz-vous, qui est ce Dieu qu'ont vu Adam, Noé, Abraham, Moïse, etc.? Quoi que vous en pensiez, ce n'est pas Dieu le Père, le Très-Haut. C'est ce que confirme l'apôtre Jean. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu le Père, c'est ce que nous verrons en rapprochant certaines citations de l'Ancien Testament à celles du Nouveau Testament. Jésus et les apôtres n'ont cessé d'enseigner l'obéissance à Dieu et à ses lois. Dans le modèle de prière qu'il a donné, Jésus dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au jeune homme qui lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle, il répondit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lorsque Jésus priait son Père, il savait qu'il s'adressait à un être spirituel ayant la puissance d'intervenir dans le monde, de guérir les malades, de ressusciter les morts, et dont la parole est immuable. Il ajouta, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Sa volonté d'obéir à son Père était telle qu'il affirma, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La nature et le caractère de Dieu se retrouvaient si parfaitement en lui, ses pensées et ses actions étaient si conformes à celles de Dieu qu'il affirma « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il se soumit complètement à Dieu, à sa volonté, au point que peu de temps avant son arrestation, il pria en disant « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». L'apôtre Paul avait compris l'importance de l'exemple que le Christ nous a laissé. C'est la raison pour laquelle il écrit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et l'apôtre Jean ajouta, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Qui adorez-vous? À qui obéissez-vous? Êtes-vous devenu serviteur des coutumes et de la manière de vivre du monde? Vous soumettez-vous aux idées, aux pressions, aux traditions de ce monde et de ces religions qui font peu de cas de la loi divine, alors que la Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. L'apôtre Paul a écrit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, comme serviteur, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Au sujet des religieux de son époque, l'apôtre Jean déclare, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Croyez-vous qu'avec une telle attitude, ces pharisiens et ces chefs religieux étaient capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Les chrétiens dans votre entourage n'adoptent-ils pas une attitude passive, se conformant aux idées et aux usages de leur congrégation? obéissent-ils à Dieu? Mettent-ils en pratique sa volonté? Ou bien, sans s'en rendre compte, observent-ils des coutumes païennes, certaines remontant jusqu'à l'ancienne Babylone? Prient-ils Dieu par habitude, particulièrement lorsqu'ils se trouvent dans les épreuves? Dans ce cas, Dieu peut-il les entendre? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes. Le mot original hébreu est avon, signifiant vos iniquités, votre injustice, qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nombreuses sont les personnes au bord du désespoir qui m'ont écrit « Dieu ne répond pas à mes prières ». Elles se leurrent en pensant que, puisqu'elles prient, Dieu les entend automatiquement et, par conséquent, il devrait leur répondre favorablement. Mais si elles lisaient la Bible, elles constateraient que Dieu impose des conditions pour entendre nos prières. Voici une de ces conditions. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Les déclarations de l'Éternel sont très importantes. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Le rabbinat français traduit ce passage ainsi. Voici pourtant ce que j'aime à embrasser de mes regards, les humbles, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont timorés pour ma parole. Un timoré est quelqu'un qui est scrupuleux à l'extrême. Le chanoine Crampon traduit ce passage comme suit. Voici celui que je regarde, celui qui est humble, qui a le cœur brisé et qui tremble à ma parole. Si vous ne prenez pas la peine d'examiner la parole de Dieu pour découvrir sa volonté et faire ce qui lui est agréable, pourquoi voulez-vous que Dieu exauce vos prières? Si vous vivez en marge des lois divines et des commandements, autrement dit, si vous vivez dans le péché, pourquoi voulez-vous que Dieu exauce vos prières? Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer en esprit et en vérité. Le monde se soucie de Dieu quand il a besoin de lui. Il recherche Dieu par intérêt. Dans ce cas, pourquoi faudrait-il que Dieu se soucie du monde? Aux questions des pharisiens et des scribes, le Christ répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Le verbe honorer est traduit du grec sobemai qui veut dire révérer, adorer. Si le chrétien qui se plaît à argumenter, à raisonner, à ergoter, voulait cesser de voir la paille dans l'œil du voisin pour ne plus voir que la poutre qui se trouve dans son œil, il constaterait que cette prophétie sur l'hypocrisie se rapporte à lui-même et à notre présente génération. Chacun doit décider s'il veut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ou s'il souhaite vivre selon ses propres idées, se plaçant ainsi au-dessus de Dieu. Dans ce cas, il s'écarte de Dieu, il ferme son esprit à la vérité, il ne peut adorer en esprit et en vérité et il ne peut prétendre être disciple de Christ. L'apôtre Jean a écrit « Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « Je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. »